quand on vous dit le mot de zone. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Les zones d'obscurité, les jeux.
En sport?
Non, oui, ça peut être sport, mais aussi les jeux vidéo et des choses comme ça. Ouais.
Les jaunes et l'orange, vous m'écoutez?
Non, mais
là-bas, c'est illimité, jusqu'au bout. Ici, c'est limité à cette zone, d'accord? Allez, de près.
Les zones protégées, ouais. Les zones environnementales sont définies comme des espaces de protection. Il y a les zones à défendre aussi, quand dans le vocabulaire militant, la ZAD, c'est une zone. C'est une notion en fait qui est pas mal tirée de la science-fiction, et notamment d'un livre qui a donné un film qui s'appelle Stalker. C'est un film d'Andrei Tarkovsky, qui est un cinéaste des années 60-70 russe, qui a notamment fait un film où, en fait, il y a une zone qui est apparue, dont les frontières sont floues, se déplacent, se meuvent, et dont, quand on est dans la zone, les codes, qui, notamment les codes physiques qui régissent notre monde, l'écoulement du temps, la transformation des matériaux, n'ont plus cours et sont différents. Et en fait, pour aller dans cette zone, il faut être guidé par le stalker, qui est un guide qui a appris à connaître, ou en tout cas à naviguer avec les transformations qui ont cours dans la zone. Et elle transforme aussi les personnes qui pénètrent dedans. Et notamment, il y a une transformation qui est presque aussi un voyage initiatique quand on vient suivre ce guide dans la zone. Et on est un peu perdu dans le temps, dans la temporalité. Et il y a des choses qu'on laisse dans la zone et d'autres qui viennent nous transformer. Et donc, c'est un peu comme si dans l'expo, il y avait plein de petites zones différentes. Je ne sais pas s'il y a une zone, une œuvre dont vous aimeriez qu'on parle en premier.
Les plus imposantes, alors forcément, c'est celle vers laquelle le regard est attiré en premier. Et puis elle est un peu déstructurée, enfin je sais pas comment dire, mais ça fait en mouvement un peu.
Qu'est-ce qui donne cette impression de mouvement?
La matière qui sort des cadres.
Et puis en même temps, il y a aussi derrière ces panneaux, on sent le relief de la matière comme si elle cherchait à sortir, à pousser, c'est vrai.
Genre Tchernobyl, on imagine un truc industriel qui dégueule, qui dégouline un peu.
Je trouve que ça fait vraiment écho aussi, finalement, à ce qu'il y a avec cette œuvre-là, aux carrières, où on a tous les écoulements, souvent des fontis de sable, et ça nous fait des espèces de pentes comme ça, de matériaux bruts qui tombent, quoi.
Une autre œuvre qui vous interroge?
On peut parler de celle-là, ouais.
Je suis allée à Herculanum.
Oui.
Et tu vois les tours des portes brûlées comme ça et qui restent et qui marquent. Ça fait des vestiges. On voit le temps qui est passé et l'apocalypse. Puis des objets qu'on peut trouver dans la rue peut-être.
Il y a on voit, par exemple, vous avez Africa ici. Donc moi, ça me fait penser tout de suite à tout ce qui était esclavagisme et tout ça, exploitation. Le côté noir ébène brûlé, forcément la peau, la couleur de peau. Le gibet, donc il y a eu des atrocités commises. Les chaînes, on était enchaînés, donc le côté esclave. Enfin bon, moi, ça m'évoque ça.
Maintenant, on ne peut plus rien dire.
Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi d'une mémoire collective, coloniale.
Porte qui ouvre sur un monde qui a complètement brûlé, où il y a plein de traces de l'ancienne humanité, enfin en tout cas société qui y vivait, et qui sont mortes, déchirées, et la vie qui reprend à certains endroits.
Dans les boîtes.
Par transparence, on voit des boîtes de papier. Non, il y a du matériel, le bureau. Moi, j'ai vu, pas scolaire, mais bureau, en tout cas.
Est-ce que ça vous évoque quelque chose d'autre, ces formes?
C'est du carton, des papiers, dans deux cercueils.
On a trié.
Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Moi, j'ai fait des carrés de permaculture et on a dit c'est cercueil de belle-mère.
Ça fait aussi un peu penser à un linceul.
C'était un tissu, justement, c'est pour ça que j'ai regardé si c'était pas un tissu ajouré, enfin, très fin, mais c'est un plastique comme un paraffine. Voilà.
Et en fait, ça c'est voulu par l'artiste, que ça évoque le cercueil, qui est aussi cette mise à distance avec le film plastique qui est tiré au-dessus. Pour lui, en fait, c'est presque une manière. C'est un artiste qui s'appelle André Asparta et qui fait tout le temps ce processus de travail avec des objets récupérés. Et là, le fait de mettre un film comme ça, pour lui, c'est aussi une manière presque d'en faire un tableau, et notamment de faire référence aux natures mortes et à la question du memento mori. Dans les natures mortes, avec notamment tous ces tableaux de natures mortes, où on voit des pommes pourries ou des choses qui nous rappellent à la symbolique de la finitude. Et en même temps, sur le côté, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a marqué. En anglais, ça veut dire quotidien, avec ces flèches. Comme si c'était un processus sans cesse, que le quotidien il revient tout le temps et puis on se répète, on est dans le même boucle aussi.
Et à la fois il y a un côté fragilité, enfin, on se dit qu'un coup de pied il n'y a plus rien quoi. Ouais. C'est...
Et puis en fait il a fait un geste aussi, enfin il y a une autre œuvre d'Andrea qui fait partie de l'exposition mais qu'on ne peut que s'entendre raconter par les médiateurs et médiatrices de l'exposition. En fait, quand il est allé au centre d'art avec ma collègue Mylène récupérer ses objets, il y a laissé aussi quelque chose qui vient veiller sur le centre d'art abandonné.
Bien. Ça on dirait de la terre.
Oui. Si, c'est de l'argile.
Oui, c'est de l'argile, hein. C'est couleur bois, mais pas...
Dans l'endroit...
Tu remontes.
Ça fait une porte. Hein, tu rentres, tu montes, tu ressors...
À un autre endroit. Tu slalomes entre les...
Des portes aussi, là, c'est un peu fossile.
Un fossile, un coquillage enfermé dans une boîte. Comme une pieuvre.
Et le temps qui passe.
Ah oui, j'avais pas vu le sable qui est tombé en dessous, j'avais même pas fait.
C'est de la poussière de béton. De béton. Bah en fait, c'est une maquette. Hein. C'est vraiment l'idée que c'est une maquette qui est faite en lien avec l'architecture de l'espace. Parce qu'en fait, c'est pour Zolo Quintal, c'est encore un duo qui travaille ensemble, Romy et Valentin. Et ce qui les intéresse, c'est que déjà une usine à poussière, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais ça s'intègre à tout un travail qu'ils et elles font autour de ce travail du béton qui, en effet, fait penser à des fossiles, des fossiles qui se seraient peut-être aussi, où le béton se serait hybridé avec les végétaux dans un futur potentiel où il y aurait comme ça une réunion de quelque chose de minéral et pas du tout naturel avec des végétaux. Et parfois même des animaux aussi, dans d'autres parties de leur travail. Et là, ils ont choisi de faire une usine avec un silo, parce que pour eux, ça fait aussi écho à l'histoire de l'Essonne, qui est un territoire qui est extrêmement agricole, donc avec aussi des gros silos de stockage, et du blé. Mais une Essonne où ce qu'on produit maintenant, c'est de la poussière de béton. Et c'est une usine à poussière.
J'ai regardé par la fenêtre ce matin pour voir comment les autres vivaient. Il fallait vite apprendre à bien faire comme tout le monde. J'ai mis sourire sur visage et mains dans les poches. J'ai marché tout droit sans poser de questions. Et puis elles ont toutes seules poussé dans ma tête, comme des fleurs qui recouvrent l'ennui, et fait leur petit chemin de travers doucement, me suis retrouvée à côté des choses. Et les gens disent « À quoi tu penses ?» Mais je dis, je pense à rien. Les gens veulent toujours savoir comment ça va, mais jamais savoir comment ça va pas hier. Tu m'as dit de ne pas trop m'inquiéter. Alors j'ai dit oui pour ne pas trop faire d'histoire, et celles que je me raconte dans ma tête font vivre un oiseau qui s'envole, et j'aimerais bien aussi être libre comme ça, et j'essaye. Et moi, ça me pensait aux adultes, tu vois, qui sont toujours en train de courir partout et qui, du coup, ils disent ça va, et puis finalement, bah, on prend pas le temps avec l'enfant, et même s'il va pas bien, on le ressent pas forcément, parce qu'on est dans notre quotidien, on a plein de choses à faire, et que du coup, l'enfant, il dit oui pour faire plaisir, et il évoque pas forcément les soucis qu'il peut avoir en tête. En le lisant, c'était ce qui m'a... C'est comme ça que je l'ai interprété.
Ethan, c'est ça qui
oui,
nous présente.
C'est Ethan Askin.
Qui nous présente l'enfance comme peut-être quelque chose de pas si fun. Ou...
Oui. Bah, en tout cas, quelque chose qui peut être fun, mais qui n'est pas forcément tout le temps. Et où justement, je pense qu'il y a quelque chose qui l'interroge dans le fait de ce qu'on projette en tant qu'adulte sur les enfants comme étant naturellement heureux. Alors qu'en fait, il y a aussi plein de choses dures qui peuvent se passer. Dans l'enfance.
Sur le bonheur et peut-être des parents, parce que si l'enfant ressent des émotions négatives, bah, ça remet en cause quelque part peut-être le rôle du parent. Donc ça éveille chez lui une angoisse qui veut que l'enfant se sent obligé de calmer en fait en disant qu'il va bien quoi.
Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on reproduit à l'âge adulte aussi. Enfin, moi, quand quelqu'un me demande ça va, sauf si c'est quelqu'un de très proche, je dis toujours que ça va. Même quand c'est pas vrai. Enfin, c'est une question très rituelle, le ça va, mais personne, enfin, dans la plupart des cas, on répond pas vraiment à la question. On dit toujours que ça va bien. Notamment, par exemple, dans le monde professionnel, il y a quand même aussi ça de... Il est attendu de nous qu'on aille tout le temps bien.
Une image.
Oui, ou en tout cas qu'on fasse semblant. Et ça, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup Ethan. Enfin, qui, en fait, pour lui, est aussi lié à... C'est un artiste qui est très militant aussi, qui réfléchit beaucoup à ce que ces injonctions au bonheur, qui passent notamment par la pub, par le marketing, par la publicité, elles reflètent aussi d'une société de consommation, qui du coup, en fait, c'est quand, comme on est plus heureux quand on consomme, du coup, comme on peut consommer, il faut être heureux. Et il faut montrer qu'on est heureux parce que ça montre qu'on a le pouvoir de consommer, etc., etc., etc.
Mais vous, en tant qu'enseignante, toi, puisqu'il n'y a que les femmes, ça vous arrive souvent d'avoir des jeunes, justement, qui viennent, qui disent « ça ne va pas » ou ça, c'est rare, finalement, sur toutes les années
Oui, ils ne vont peut-être pas le traduire comme ça, ils vont souvent avoir mal quelque part, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, un enfant qui se plaint régulièrement, tu sens qu'il y a certainement autre chose qui ne va pas. Donc tu peux creuser un peu aussi.
On voit aussi si l'enfant il est bien ou pas bien. Enfin, moi, je sais, quand je dis bonjour le matin, quand on se dit bonjour, on voit si l'enfant il y a un souci ou pas. Et si ça va pas, ben, viens, on va discuter. Enfin, moi, je prends le temps de discuter avec l'enfant dans ces cas-là. Parce qu'il va pas passer une mauvaise journée pour autant, mais peut-être que ce qui s'est passé le matin, il y a quelque chose qui n'a pas été, l'horaire en retard, voilà. Ben, peut-être qu'il a besoin d'évacuer quelque chose avant de pouvoir travailler en classe avec nous, quoi. Mais émotionnellement, on le voit.
C'est vrai.
On le voit, on le lit sur le visage. Quand on connaît les enfants.
Il y a quelque chose de positif, si on essaye. Il y a pas... On ne reste pas dans la fatalité, puisqu'il essaye.
Oui, c'est vrai.
Il y a ce côté de cette assignation au bonheur, au joyeux aussi, à travers justement ce côté très coloré pour les enfants, et puis finalement, cette contrainte qu'on leur impose.
Ouais.
En fait, on n'autorise plus les personnes à être mélancoliques, en fait, et avoir des temps où on est pas moins bien, et c'est normal, et on a vraiment tout de suite, ça va pas, il faut que ça aille bien, et ça, je trouve que ça génère du surstress aux jeunes, en fait.